En quoi, en qui est-ce que je mets mon réconfort? Qu'est-ce qui, dans ma vie personnelle, m'aide et me soutient? Sur qui, sur quoi je m'appuie? Alors, dans notre partage biblique, eh bien, nous avons commencé par cette question. Certaines personnes ont parlé de ce qu'on aime, que ce soit dans la famille, dans les amis ou bien dans la communauté chrétienne. Le fait de faire des projets, seul ou avec des personnes qu'on apprécie, les lectures bibliques, la foi en Dieu, la beauté de la nature, les animaux, la musique, le fait de garder l'espérance. Vous pourrez peut-être faire l'exercice à la maison aussi à votre tour. En tout cas, eh bien, le psalmiste nous invite à entrer dans ce qu'il nous dit, de ce qui est pour lui le réconfort. Ce psaume 23 contient 6 versets, 6 petits versets, peut-être parmi les plus connus de la Bible. Et ce psaume porte quelque chose d'universel. Il ne mentionne aucun nom particulier, aucun nom de personne, il mentionne aucun nom de temps. On ne sait pas dans quel temps on est, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de nom de géographie, ça peut être n'importe où. Alors on sait que l'écriture des psaumes s'est faite sur un temps long, donc on ne sait pas très bien quand est-ce que ça a été écrit, entre le 8e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors regardons un peu ce psaume dans le détail, j'y vois 3 parties. La première comporte les 3 premiers versets. Et tout de suite, l'auteur parle en « je ». Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Avec cette première personne, eh bien, je suis tout de suite associée. Quand je lis ou que j'entends ce psaume, je suis associée à ce que dit le psalmiste. Le Seigneur. Le Seigneur, eh bien, en hébreu, c'est celui qu'on traduit par Yahvé, le nom imprononçable, mais ce nom de Dieu qui est en jeu dans les relations personnelles. C'est la relation privilégiée entre mon Dieu et moi. Celui qui se révèle à Moïse, notamment. Alors, qui est-il, ce Seigneur? Que fait-il? Eh bien, il fait des choses pour moi, si le psalmiste m'associe. Il me fait paître, donc on peut dire qu'il me nourrit. Il me fait coucher. Il me conduit. Il fait revenir mon être, il me guide. Ce qu'on peut dire, c'est que ce Seigneur s'occupe de moi. Il sait, le psalmiste sait et vit aussi sans doute dans un monde difficile comme nous aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça change. Et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et finalement, ce dont nous avons besoin ne change pas énormément non plus. On a besoin de manger, de boire, d'être au repos. Alors le berger est une image déjà bien connue dans l'Ancien Testament, les prophètes l'utilisent pour parler de Dieu, et évidemment Jésus reprend cette phrase, cette expression, cette image, pour expliquer son rôle de fils et sa proximité avec Dieu en disant « Je suis le bon berger ». Et nous avons entendu tout dans le texte de la multiplication des pains que Jésus fait se reposer les gens sur l'herbe verte. Et souvent on se dit « Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette précision ?» Ben, moi, je pense que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas fortuit. Tout est fait pour qu'on rattache Jésus à ce Dieu qui prend soin. Et puis, j'aime bien le fait que le repos arrive au 2e verset. Je me suis dit, peut-être qu'on aime ce psaume parce qu'il nous permet de nous reposer sans culpabilité. Et l'auteur insiste en disant qu'il est conduit vers les eaux du repos. Souvent, on traduit les eaux paisibles, mais c'est vraiment les eaux du repos. Ce n'est pas une tempête, c'est des eaux qui nous calment. Alors oui, en Dieu, nous avons droit au calme, à la sérénité que peuvent procurer des verts pâturages et des eaux paisibles. Et puis, au début du verset 3, la phrase dit « Il fait revenir mon être ». On le traduit par « Il restaure mon âme ». Mais le mot, c'est « revenir ». Il fait revenir mon être, mon âme. J'aime bien cette notion de faire revenir, parce que aujourd'hui, et peut-être que c'était le cas aussi à l'époque, On est souvent éparpillé, distrait, dispersé. Alors, je vais prendre l'exemple, quand je marche dans la rue, je vois de plus en plus de personnes absentes. Absentes de leur marche, absentes de leur environnement. Elles sont pourtant dans un espace public, partagé avec tout le monde, où l'on se croise, mais ces personnes s'isolent sur leur portable. Elles sont attirées par leur portable, dispersées sur leur portable. Donc, c'est quoi les conséquences ? Ben, on ne croise plus des êtres humains, on ne peut plus croiser leurs yeux, et on ne peut même plus leur parler, parce qu'évidemment, avec le portable, il y a les écouteurs. Moi, ça me rend triste. Alors oui, faire revenir notre être dans l'ici et maintenant. Même les méthodes de bien-être qu'on voit partout nous y encouragent. Mais cela est bien vite oublié. Et ça, ça participe à notre fatigue, voire à notre épuisement. Alors le psaume nous dit, oui, Dieu fait revenir mon être. On peut penser à Dieu pour revenir vers lui. Le psalmiste affirme qu'avec ce berger, je ne manquerai de rien. Alors en plus de la nourriture, du repos, de la présence à soi-même et aux autres, qu'est-ce qui m'est encore nécessaire ? Eh bien, la suite nous dit qu'une autre chose indispensable, c'est d'être guidé dans la justice. Ou plus précisément, dans des sentiers de justice, comme si la justice n'était jamais atteinte. On est en chemin. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle justice. C'est la justice de Dieu, et non pas celle des êtres humains, même si celle des humains est très importante aussi. Mais celle de Dieu est importante, et le psalmiste dit « à cause de ton nom ». Dieu est fidèle à lui-même. Le mot hébreu pour dire justice, c'est « tzedek ». Cela ne veut pas dire le jugement, mais ce qui est juste, et même justifié. Souvent, dans d'autres passages de l'Ancien Testament, la justice de Dieu, eh bien, c'est le salut. Certains psaumes s'adressent ainsi à Dieu. « Tu vas me délivrer, me libérer dans ta justice. » La justice englobe à la fois l'action de Dieu, qui sauve l'humain, et l'entrée de l'humain dans ce salut, par sa fidélité. Les sentiers de justice sont des chemins où Dieu me fait justice, me sauve du mal que je subis. Peut-être que je fais subir, et là, le pardon va être déterminant dans ce positionnement. Et puis Dieu me guide pour rechercher ce qui est juste dans ma vie, ce qui est ajusté. Alors on continue. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà mon réconfort. Et là, cette phrase inaugure une nouvelle partie, vous avez remarqué, après avoir parlé de Dieu, eh bien on va parler à Dieu. Nous arrivons dans une intimité de cœur à cœur, au moment où le danger est le plus grand, tu es avec moi, dit le psalmiste, à Dieu. C'est une déclaration de foi, et une réponse à Dieu qui répète tout au long des textes bibliques, « Je suis avec toi, je suis avec vous. » Et puis, dans cette méditation, j'ai découvert aussi que l'expression « la vallée de l'ombre de la mort » n'est pas tout à fait exacte dans la traduction. En effet, les commentateurs nous alertent sur le fait qu'il y a eu une mauvaise compréhension dans l'étymologie du mot utilisé, et on devrait traduire la vallée d'obscurité profonde. Alors vous me direz, ça ne change peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, le psalmiste, que ce soit la notion de mort ou l'obscurité profonde, eh bien, Dieu est là. Parce que dans une obscurité profonde, je peux peut-être me sentir un peu seule, et même si j'ai peur de la mort, Dieu est là. Même si je meurs, Dieu est là. Et ça, c'est le plus grand réconfort que je puisse recevoir, que je peux recevoir. Alors l'obscurité, c'est quand je n'y vois plus rien dans ma vie. Peut-être quand je suis confrontée au mal, quand je suis confrontée au malheur. Et c'est vrai que dans notre vie, nous sommes dans une lutte permanente contre le mal, contre ce qui fait mal, parfois en nous et parfois ce qui vient de l'extérieur de nous. Et le psalmiste nous dit « Ne vous laissez pas impressionner par vos ennemis, que ce soit des ennemis intérieurs ou des ennemis extérieurs. » En effet, il continue à s'adresser à Dieu en lui disant « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Les adversaires, c'est ceux qui veulent attaquer. Alors, quand on met une table, en général, eh bien, on met de la distance. Donc, les adversaires sont en face. Donc, il y a une distance. Et puis, quand on se met à table, en général, on discute, on va parler. Donc, quand on veut négocier, souvent, il y a une expression qui dit « on va mettre tout le monde autour de la table ». Cette table est faite pour cela, pour parler. Mais Dieu va rajouter quelque chose. En tout cas, le psalmiste va rajouter quelque chose pour que je n'aie pas peur de mon ennemi. Dieu m'assure du prix que j'ai pour lui en me mettant de l'huile sur la tête. Alors évidemment, aujourd'hui, l'huile, bon, je viendrai vous mettre de l'huile sur la tête, vous diriez, mais t'es en train de faire quoi ? À l'époque, ça voulait dire quelque chose. Tu enduis ma tête d'huile, ça voulait représenter dans l'Ancien Testament une bénédiction de Dieu. Et puis quelqu'un dans le partage biblique a dit, dans certaines cultures, ça voulait signifier l'hospitalité aussi. Ce n'est pas le même mot que l'onction d'huile pour le Christ, pour le Messie. Il y a deux mots différents. Mais c'est quand même de l'huile. Et évidemment, dans le Nouveau Testament, vous avez peut-être en tête la femme qui va mettre de l'huile, soit sur la tête, soit sur les pieds de Jésus, en signe d'amour. Donc l'huile peut représenter l'amour de Dieu. Et le psalmiste dit « ma coupe déborde », donc c'est une coupe de vin qu'on a à table. Et évidemment, quand l'amour de Dieu est donné, l'amour est toujours donné en surabondance. Dieu ne compte pas son amour. Alors, dans la confrontation, Dieu m'assure de son amour pour que je ne me laisse pas impressionner par l'autre. Je peux résister à la peur, je peux tenir ma ligne, mes valeurs de vie. Et cette onction d'huile, on peut la relier à notre baptême, parce qu'on se fait baptiser aussi par la tête. En tout cas, dans nos églises, le baptême qui m'assure d'être enfant de Dieu. Et puis, l'huile sur la tête, eh bien, la tête, ça m'ouvre à la verticalité vers Dieu. Et c'est ainsi que moi, j'ai envie d'entendre. Peut-être que Dieu me dit « Ne t'inquiète pas, libère-toi de tout ce chaos ambiant, détache-toi de ce qui te fait peur, reprends des forces en moi dans une autre dimension, car même les tyrans sont mortels, même ceux qui font beaucoup de bruit dans les médias. » Oui, en reprenant des forces, je peux me laisser guider par Dieu et sortir de la sidération dans laquelle beaucoup de choses et de gens tentent de nous enfermer. Alors nous arrivons maintenant à la troisième et dernière partie avec le verset 6, et le psalmiste revient en parlant de Dieu et nous associe à la promesse d'être avec lui toute notre vie en disant « Le bonheur est là ». Alors il dit « Oui ». Il y a une petite interjection là, « Oui ». Le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Alors le mot qu'on peut traduire par accompagner, le bonheur et la fidélité m'accompagneront, c'est poursuivre. C'est curieux. Le bonheur et la fidélité me poursuivent. C'est comme si on pourrait dire il ne me lâche pas. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Et ça, c'est important de se le dire. Le bonheur, c'est ce qui est bon, ce qui est beau, agréable, bienveillant. Et si ça me poursuit, c'est que c'est là tous les jours. À moi de les reconnaître. À moi de tourner mon regard vers ce qui est beau, ce qui est bon. Et si je suis reconnaissante de ces bonnes choses qui me sont données, eh bien, c'est une façon de rester fidèle à Dieu. Alors pour finir, eh bien, je reviens dans sa maison. À l'époque, la maison du Seigneur, eh bien, c'était le temple. Au psaume 83, le psalmiste dit « Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !» Alors pour nous, eh bien, ça s'est déplacé dans la personne de Jésus-Christ. C'est lui auprès de qui on peut chercher la présence de l'Esprit-Saint, la présence du Père. Alors bien sûr, nous, on n'arrive pas à y être toujours comme Jésus, mais en fait, il nous y fait revenir. Donc il y a en effet cette phrase « Je reviendrai à la maison du Seigneur ». Il nous fait revenir encore et toujours. Et il nous fait revenir pour de longs jours. Alors, il y en a qui traduisent pour la durée de mes jours, mais il n'y a même pas le possessif. Ça ne fait rien, on peut l'y mettre. Pour la longueur des jours. Et la durée, en fait, dans ce psaume, est associée à ce qui est bon, parce qu'il est bon d'être avec Dieu. Alors, nous voici arrivés à la fin de ce psaume, la fin de ce chemin. Nous avons parcouru ce que la présence de Dieu apporte, la nourriture spirituelle, le repos, la sérénité, être conduit dans ce qui est juste, être aimé face à ce dont nous avons peur, recevoir ce qui est bon, revenir vers notre source qui est en Dieu. Et en fait, lire ce psaume, c'est déjà recevoir ce qu'il veut nous donner. Peut-être le savez-vous par cœur. En tout cas, on peut se le réciter partout, à tout moment, et revenir vers Dieu pour se reposer de l'agitation ambiante. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais, quelle que soit notre vie. Proclamons avec le psalmiste : Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen.